Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire de l'un des plus grands faussaires de l'histoire de l'art, Éric Piédois-Lethiec. Il a fabriqué plus de compressions du sculpteur César que César lui-même. C'est une histoire que je tire de son livre qui paraît chez Max Milo, Confession d'un faussaire. Il sera là tout à l'heure. Simon Veil m'a aidé à l'écrire. Céline Lebras signe la réalisation.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Il faut d'abord que je vous raconte comment je m'y connais en art plastique. J'ai eu la chance de grandir dans une enclave. Une enclave peuplée de peintres, de musiciens et de cinéastes du monde entier. Saint-Paul-de-Vence, qui a vu passer Matisse, Dubuffet, Soutine, Modigliani, Calder, Miro, Giacometti, Chagall. Tout ça, ça fait comme un concentré d'énergie, vous voyez? Et puis, toujours à Saint-Paul-de-Vence, à 15 ans avec mes amis, on tapait l'incruste dans des vernissages, des happenings. Un soir, par exemple, je me suis retrouvé chez Billy Wyman, le bassiste des Rolling Stones. Murray Head était là. Et Mick Jagger était là avec ses groupies. Et tout autour, tout un tas de people complètement déglingués, perchés très haut, très haut. Et donc, mes potes et moi, on s'est mis au diapason. Nana, champagne, drogue. C'était les années 70. Et puis un jour, mon grand-père, peintre et architecte, m'offre un appareil photo, un Nikon. Et tous les deux, on devient inséparables. C'est mon passeport pour entrer dans le mystère de ceux qui font de l'art. Et c'est comme ça que j'entre dans les ateliers du sculpteur Armand, à Vence, dans l'atelier de Ben, à Nice, ou dans celui de César, à Roquefort-les-Pins. Et à un moment, je me mets en tête d'entrer aux Arts Déco de Nice. Je me prépare, je vais dans les musées, les galeries, je prends des cours privés de dessin, j'étudie la couleur, et à l'arrivée, je suis recalé. Trop académique, paraît-il. Et donc je me rabats sur la ville Latiole, toujours à Nice, une école qui prépare au concours. Et là, je dois reconnaître que je suis mauvais. Mais mauvais, mauvais. Quand je commence un dessin, au bout d'un moment, le prof attrape mes fusains pour le finir, ou pour le refaire. Moi seul, je n'aurais pas été capable d'achever ma merde. Et c'est à la Villa Thiol que je découvre la vie magique d'un artiste qui s'appelle Fernand Legros. Dans les années 60, cet artiste faussaire a mis le monde entier dans sa poche. Il aurait pu avoir une existence terne. Ce fut un bouquet de lumière. Et ça me fait rêver. Alors un matin, je manque d'argent. Je suis en train de boire un thé. Je me mets à fouiller dans mes cartons à dessin. J'en sors une feuille de papier canson. Et je la trempe dans mon thé, dans mon Earl Grey. Et je m'aperçois qu'au séchage, la feuille vieillit d'une quarantaine d'années. Et là, j'attrape une mine de plomb et j'exécute sommairement un dessin que j'ai trouvé dans un catalogue du peintre Dufy. Une scène de calèche avec des chevaux et des dames en crinoline. Tout ça croqué dans le jardin Albert Ier de Nice. Le dessin est sympa. Et l'après-midi même, je décide d'aller le proposer sur le marché des brocanteurs, des antiquaires et des marchands de croûtes dans le vieux Nice, cours Saléa. J'essuie deux ou trois refus. Et puis, je vous en propose 6000 francs. D'accord? Vous auriez d'autres choses comme ça dans votre famille? Je sais pas. Faut que je vois, que je regarde. Et après je me lance dans des Fernand Légers. Je vais au Musée national Fernand Léger, à Biot. J'étudie les périodes de son œuvre, j'analyse le papier, les couleurs de ses gouaches, les encres qu'il a utilisées. Je passe de la bibliothèque au musée et je prends des photos. Et d'ailleurs, j'apprendrai plus tard que la veuve de Fernand Léger elle-même a continué de créer des œuvres de son mari après sa mort. Et donc moi, dans l'esprit du maître, je réalise, pas des œuvres importantes, hein, des études. Et je vais les vendre à mes petits marchands du cours Saléa. Et ensuite, je fais pareil avec Chagall. Là, je contacte une galerie de Monaco qui joue les prêteurs sur gage. Elle prête de l'argent contre des œuvres d'art. Ils ont dû me prendre pour un héritier flambeur qui dilapide les biens de sa famille. Ils m'en prennent 4, en gage, pour l'équivalent de quelques centaines d'euros. Et bien évidemment, vous pouvez venir les récupérer quand vous voulez, hein. Il suffit de nous rembourser avec des intérêts, bien sûr. Voilà. Voilà comment ça a commencé. Et ma petite affaire prend vraiment son ampleur en 1983, quand je fais la connaissance de Richard Fulton, un Américain dont les ancêtres fabriquaient des rails de chemin de fer. Quand je le rencontre, il a hérité de l'Empire. Et en plus, d'une grande collection d'art moderne et ancien. Il a des Chagall, il a des Picasso, il a des Giacometti. Mais sa maman le connaît. Elle sait qu'il est complètement destroyed, sexe, drogue and rock'n'roll, rail de coq du matin au soir, et donc elle lui a interdit de vendre les tableaux. Richard vit entre New York et le domaine de Flossan, un manoir près de Saint-Paul-de-Vence. Et les tableaux sont là, partout, sur les cimaises. Et là nous vient l'idée, tous les deux, de fabriquer des clones de ces tableaux, de les substituer aux œuvres véritables, maman ne verra rien, et de les vendre, les originaux, bien sûr. Et donc, nous partons tous les deux, Fulton et moi, à New York, chez lui, dans son flat de 800 mètres carrés. Et là, parmi les œuvres qu'il possède, on décide de se concentrer sur les Matisse orientalistes, les Picasso cubistes, un portrait de Renoir et un dessin de Cézanne. Et pour m'aider, je fais venir de Vienne un faussaire de grand talent que j'ai connu à Nice et qui s'appelle Helmut. Il débarque à New York avec tout son barda, des poudres, des pigments, de vieilles toiles dont il a gratté la croûte et n'a gardé que le tissu. Il apporte aussi des châssis d'époque et des huiles fabriquées avec des recettes de l'époque. Et on se met au travail pendant un mois, entrecoupé de nuits explosives. Et un jour, Richard me dit « Regarde, Eric. Regarde ces deux Picasso, là. Regarde. L'un des deux est un faux. Dis-moi lequel. Ouais, c'est celui-là. » Je me suis trompé. Je suis vexé à mort. Et donc, une fois tous les faux achevés, eh bien, on les accroche. Et ils font parfaitement illusion. Et de toute façon, ils ne seront jamais mis en vente. Et nous, on file à Tel Aviv, où des collectionneurs que nous avons contactés trépignent d'impatience. Et on se partage plus de 5 millions de dollars. 60% pour Richard, 30% pour moi, et 10% pour Helmut. Et bien entendu, je vous préviendrai de façon prioritaire quand d'autres œuvres de la collection Fulton seraient amenées à être mises en vente. Et on s'y remet. Et cette fois, on choisit des œuvres du XXe siècle. Des Chagall, des Miro, des Giacometti et un petit collage de Max Ernst. On se relève les manches, on assemble les châssis, on use les toiles, on les salit avec de la poussière d'aspirateur pour les vieillir. Helmut se met à peindre et à coller. Et bien sûr, 2 ou 3 fois par semaine, on reçoit, hein, on reçoit des fous, des fêtards, il y a des nymphomanes plein la piscine. Il ne faut quand même pas perdre de vue notre objectif. le plaisir. Et quand on a fini, on est sur le point de repartir pour Tel Aviv, quand, aux surprises, débarque Miss Fulton, la mère. Ça n'était absolument pas prévu. Elle se sert un verre de Chablis et... Dites-moi, les garçons, et si on testait vos connaissances artistiques, hein? Parmi les tableaux qui sont là, est-ce que vous sauriez distinguer les œuvres authentiques des fausses? Où veut-elle en venir? Est-ce qu'elle s'est rendue compte de quelque chose? Eric? Vous vous appelez Eric, n'est-ce pas? Allez-y. Quelles sont les vraies et quelles sont les fausses? Et là, je décide de jouer au poker, les yeux dans les yeux. Je lui désigne donc toutes les œuvres modernes qu'on a clonées. Bon, je ne suis pas un expert hein, en art moderne, mais il me semble que ces tableaux-là sont de très grande qualité. Très grande. Et ensuite, je lui montre les Picasso, les Braque et les Dufy qu'on n'a pas encore retravaillés. Quant à cela, madame, une fois de plus, mes connaissances sont limitées. Mais ils me paraissent authentiques, à 100%. Et pour ce qui est des œuvres anciennes, je lui explique que je n'y connais rien, que ça n'est pas mon goût. Et maintenant, j'attends le verdict. Et là, la Fulton s'écroule dans le canapé 1930, et en me désignant les œuvres clonées, elle se met à m'expliquer ce que je savais déjà. Vous savez, Eric, le père de Richard a acheté toutes ses œuvres aux artistes eux-mêmes, dans leur atelier.
Donc elle n'y a vu que du feu.
En revanche, Eric, en ce qui concerne les œuvres du 18e et du 19e, le grand aïeul de Richard a acheté aussi bien des vrais que des faux, hein, des faux exécutés du vivant de l'artiste avec la bénédiction du maître, sans doute. Vous savez, ça s'est beaucoup produit dans l'histoire de l'art. Le maître signait des œuvres qu'il n'avait pas exécutées.
Posséder des faux ne lui pose aucun problème. Il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Et du coup, je commence à avoir un doute. Est-ce qu'on n'aurait pas cloné des faux? Bon, finalement, peu importe. Qu'est-ce qui fait le prix d'une œuvre? Eh bien, disons que c'est 20% le nom de l'artiste, 30% la qualité de l'œuvre, mais surtout 50% la renommée de son propriétaire. Avec Richard, on a décidé de faire un test. Dans sa collection, il y a un vrai tableau de Raoul Dufy. Et moi, j'ai déjà fait de faux Dufy. Et donc, j'en fais 5. 5 faux, des études. Et avec le vrai et les 5 faux, nous nous rendons à la Villa Dufy, à Villefranche-sur-Mer, où nous tombons sur une amie du peintre qui s'érige en experte.
Ah, c'est excellent. Je vous propose 300 000 pour le tout.
Dérisoire.
Nous ne sommes pas vendeurs, madame, mais si nous devions vendre, nous reviendrions vers vous, bien sûr. En revanche, est-ce que vous pourriez nous faire des certificats authentifiant ces 6 œuvres? Ah oui, bien sûr.
Et elle le fait. Et nous nous replaçons le vrai sur sa cimaise à Flossane, et nous revendons à un amateur éclairé les 5 faux devenus définitivement vrais. J'apprends que dans la villa de Chagall, la colline à Saint-Paul-de-Vence, il resterait une 100aine d'œuvres, essentiellement des gouaches, des dessins, des œuvres préparatoires pas toujours terminées. Et j'obtiens qu'un jour, le fils du gardien coupe l'alarme et nous ouvre les portes de l'atelier. Et je comprends vite que le fiston du gardien est accro à la cocaïne.
« Dites-moi, je vous offre 30 000 euros pour le tout. »« 30 000 euros ?»« 30 000 euros de plus, hein ?» Si vous les revendez bien, d'accord?
D'accord. Moi, à côté de ça, je réalise quelques copies, et je demande à ma copine de l'époque de se faire passer pour une héritière, et d'aller vendre un mélange de vrai et de faux chez un antiquaire de Nice. Mais l'acheteur se méfie, et il prévient la police. Et le lendemain, perquisition chez moi, où les flics tombent sur une trentaine de faux. Me voilà donc en garde à vue. D'où viennent ces tableaux, monsieur ?
Eh bien, c'est moi qui les ai peints.
Ils ne me croient pas. Alors j'attrape un bic sur le bureau et sous leurs yeux, je leur refais un Dufy, un Miro et un Chagall. Le lendemain, c'est dans le journal. Arrestation du roi du pinceau, empereur du faux. Et moi, je file à la prison de Nice. J'ai pris 10 mois. À ma sortie de prison, je replonge assez vite. Et toujours à Saint-Paul-de-Vence, je fais une rencontre clé. James Baldwin, un écrivain et pasteur afro-américain homosexuel, qui est un collectionneur avisé de pop art. Il me montre sa collection. Et je repère tout de suite des sculptures compressées de César. Et puis, James tombe malade, un cancer. Et avant de mourir, pour ne rien laisser à son frère, qui est un éternel absent, il m'offre quelques-unes de ses œuvres, et notamment des dessins et 5 compressions de César, dont 2 sont des compressions de Honda 750. Et moi, par la suite, eh bien, je commence à réaliser mes propres compressions dans une casse de voiture près de Grasse. Je commence par une voiture que j'achète 76 francs 20, je la compresse, je la signe César, et je vais la proposer dans une galerie à Nice, la Galerie Ferrero. Je prends une belle leçon.
C'est très amateur comme travail. Ça n'est pas du tout du César, ça. Ça ne peut pas être du César.
Bon. Et donc je me débarrasse de ce ratage et je le fourgue à un brocanteur de Nice. Quelle ne sera pas ma surprise plus tard de découvrir mon faux dans un catalogue avec écrit juste en dessous « Collection particulière de la galerie Ferrero ». Mon faux était devenu un vrai, avec la complicité du galeriste, qui est un ami de César. Et donc, ça m'encourage. Je me remets à faire des compressions et des dessins de César. Au point d'ailleurs qu'un jour, il s'en agace lui-même.
Je vous aime bien, Eric. Votre travail est d'assez bon niveau. Et il ne m'insulte pas. Mais enfin, si les collectionneurs apprennent qu'il existe de faux César authentifiés, ça va jeter le doute et entraîner une baisse de prix immédiate. Et donc, je vous demande de ne plus produire de faux dessins de moi, au moins jusqu'à mon décès.
César est enterré le 10 décembre 1998 au cimetière du Montparnasse, à Paris. Et j'y suis. Et je vois Rosine, sa femme, et Anna, sa fille, et surtout Stéphanie, sa dernière compagne, qui aurait pu être sa petite-fille. Stéphanie qui se retrouve par testament, détentrice du droit moral de l'artiste, ce qui va lui permettre d'authentifier les créations du maître. S'ensuit un imbroglio autour de la succession qui dure 15 ans. Une bataille juridique qui oppose sa fille Anna à Stéphanie, la compagne. Des œuvres ont disparu, d'autres ont été détruites. Et pour moi, c'est l'idéal. Je peux donc poursuivre l'œuvre du maître. À ce moment-là, j'ai chez moi une trentaine de faux César. Des compressions de Honda 750, des compressions de couverts en argent, de boîtes de Coca-Cola, de cafetières en émail. Et je propose à 2 compères, Lol et Pat, de les fourguer, de devenir mes commerciaux, discrètement, sans que j'apparaisse. À eux de se débrouiller pour obtenir des certificats. C'est mon frère Franck qui encaissera les bénéfices. Et qui fournit à Lol et à Pat les certificats d'authentification ? Eh bien Stéphanie, la dernière compagne de César.
Je n'ai pas le temps de tout vous raconter. Au total, nous avons réalisé et vendu plus de 2000 œuvres signées César depuis sa mort, authentifiées. À mon avis, on en a réalisé plus que César lui-même. J'ai conscience qu'il y a un risque. Il y a un risque de chute. Mais nous chuterons richissimes. Le 27 septembre 2001. Les jours précédents, on a fait la fête presque sans s'arrêter. Et à 6 heures du matin...
Police ! Ouvrez, s'il vous plaît !
Et là, j'ai pas beaucoup de temps. Je me jette sur mon ordinateur, je détruis toutes les données, je brûle les disquettes de photos, les cassettes numériques qui prouvent la fabrication, je mets tout dans le jacuzzi, je mets le feu. Ça fait tellement de fumée qu'on est obligé de mettre des masques. Ils ont dû aller chercher un serrurier, on a encore un peu de temps. Alors avec ma copine Anissa, on fait l'amour une dernière fois. Et à 9h30, ils ont trouvé un serrurier. Et ils entrent. Et ils se jettent sur moi. Et je me retrouve à plat ventre, en peignoir, menotté dans le dos. Et ils embarquent mes œuvres d'art, toutes celles que j'ai accumulées, achetées. Il y en a au moins pour 2 millions. Je me retrouve à la prison de Fresnes. Et ensuite, on me transporte à Grasse, devant le juge d'instruction, où je découvre que toute ma petite équipe est sur écoute depuis 4 mois. Et que les gendarmes nous ont même filmé de loin en train de faire des compressions à Grasse. Avec une difficulté, tout de même. Personne, vous entendez, personne n'a porté plainte. Personne ne s'est jamais plaint d'avoir acheté de faux César. Et pour cause. Les œuvres sont authentifiées. Je suis le seul de toute la bande à être envoyé au trou à la prison de Nice. Et je me retrouve en cellule avec un proxénète tchétchène et un dealer de coke italien. En janvier 2002, j'obtiens une conditionnelle. Je sors de prison. Et les affaires reprennent. J'ai besoin d'argent. Et donc je me remets à vendre du César. Au même client qu'avant. C'est surréaliste. Le procès César s'ouvre 8 ans après les faits, en novembre 2009. Il dure 5 jours. On nous reproche 150 faux seulement, alors qu'on en a fait des milliers. Et à l'audience, on me montre de faux César qui ne sont même pas de moi. Eh oui, les miens ont été authentifiés. Ils sont devenus vrais. Et c'est d'ailleurs ce que plaide mon avocat à la fin.
Il n'est absolument pas prouvé que mon client ait mis sur le marché quoi que ce soit qui n'ait pas été authentifié par les plus grands experts.
Et à l'issue, je suis condamné à 4 ans de prison. Incroyable histoire que je tire donc du livre de Éric Piédois-Letièque, Confession d'un faussaire, aux éditions Max Milo. Et il est là, Éric Piédois-Letièque.
Merci de m'avoir reçu.
Vous vous êtes beaucoup marré en écoutant votre histoire. Je me suis demandé finalement si vous n'étiez pas un peu fier de tout ça.
Non, je suis fier de rien. C'est juste un jeu. J'ai créé un jeu. Il y a des gens qui jouent au loto, ils cochent des chiffres, bêtement. Moi, j'ai créé un jeu où tout le monde gagne.
Toujours.
Ben oui, il n'y a pas de perdant dans les histoires.
Si vous avez passé 10 ans en tôle, quand même, au total.
J'assume. C'est pas un souci pour moi.
Parce que 4 plus d'autres, il y a eu d'autres condamnations.
C'est pas grave, je m'en tape. la prison, c'est une case comme au Monopoly.
D'ailleurs, vous racontez qu'à certains moments, bon, c'était dur, la prison. Mais
non,
vous vous êtes fait des copains
très
aussi.
Dur. Mais bien sûr, c'est un microcosme. OK ? Il y a des baltringues, il y a des gens intelligents, il y a des gens brillants, même en prison. C'est une concentration de la société de la prison. OK ? Donc, à partir de ce moment-là, on tombe toujours sur les gens sympas. Quoi.
Vous avez fait des faux pour les gardiens et le directeur
oui.
de la prison.
Bien sûr.
Vous avez continué, en fait, pendant toute votre détention, à peindre, à dessiner.
Ah, mais je peignais, moi. J'ai exigé d'avoir une cellule seule au beau maître. Alors que tout le monde, ils sont 3, 4 par cellule. Moi, j'ai dit au directeur, j'arrive, je vais être seul.
Ouais.
Et je peignais dans ma cellule.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, depuis que vous êtes sorti?
Je suis trader en art.
En art. Donc vous vendez toujours de l'art?
Oui, et je collectionne aussi.
Continuez à en collectionner.
Bien sûr.
Vous avez récupéré la fameuse collection personnelle qui avait été saisie à l'époque, ça a été très long. Hein,
une partie, mais moi je suis un dispendieux, donc je dépense tout.
Vous avez tout vendu?
J'ai récupéré 800 000 euros. Bon.
Voilà. Et vous en vivez un peu encore aujourd'hui?
Non, je vis de rien. Je vis de rien, je m'en tape. Mais ce que je veux, c'est je fais la promotion de jeunes artistes. Okay. Ouais. Et je vends aussi des Basquiat, des Warhol, des Van Gogh.
Ont-ils aujourd'hui encore, êtes-vous capable de dire aujourd'hui, tous les Basquiat que je vends, tous les Warhol que je vends, ont été réalisés par Basquiat et Warhol?
Évidemment. Évidemment, et certifié.
Ouais. Ouais, mais certifié, maintenant que je vous connais, je sais
non,
que ça veut rien dire.
Mais non, c'est pas moi qui les ai peints non plus. Hein. Mm. Mais Basquiat était suffisamment fort pour faire ses propres œuvres.
Mm.
Et Van Gogh, pareil. S'il n'y a pas les certificats qui entérinent tout le système, qui reconnaît, ça c'est un Van Gogh, ça c'est un Basquiat, ça c'est un Picasso et tout, franchement.
Il n'y a pas de faux Andy Warhol dans les collections des collectionneurs
peut-être
actuellement?
Peut-être que si.
Sans doute.
Oui.
Et des faux Basquiat, vous le dites qu'il y a des faux Basquiat qui circulent.
Il y a certainement des faux Basquiat, mais ils sont tous vrais.
C'est-à-dire...
Moi, Gérard Basquiat, c'est mon pote, le père de Jean-Michel.
Oui.
Et il m'appelait à New York avec le décalage. Il me disait, il est mort maintenant, le pauvre. Mais bon, il me disait, Eric, oui, bah, c'est cool. Je ne veux pas donner de nom.
Mmh. Je comprends. Ah, vous en donnez pas mal, cela dit. Il y a quelques galeristes qui prennent cher.
Des noms qui sont publicités.
Mmh. Eric, il y a une question qui vient à l'esprit concernant César. Il est l'un des artistes les plus célèbres de l'art contemporain. Et la question, c'est, est-il vraiment un artiste puisqu'il est si facile de reproduire ses œuvres?
On ne fait pas des reproductions, on crée de nouvelles œuvres. Dans l'esprit du maître.
Ouais.
C'est-à-dire que je ne suis pas une photocopieuse. Hein? Je ne vais pas faire un clonage. Moi, quand je chope un artiste, j'ai son système, ses arcanes, son fil d'Ariane.
Ouais.
Et à partir de ce moment-là, je me positionne et je fais une nouvelle œuvre.
Mais qu'est-ce qu'il y a de plus dans un César que la compression d'une moto dans une machine, dans une casse de moto?
L'esprit de César.
Et là, dans vos œuvres à vous, c'est l'esprit d'Éric Piédois.
Non, c'est l'esprit de César, de l'artiste, lui-même. Si vous ne comprenez pas l'artiste, vous ne pouvez pas faire ça.
Non, ma question c'est, est-ce que César, au fond, n'était pas déjà plus un businessman qu'un artiste? Et au fond,
non.
Vous êtes resté fidèle
César
au businessman.
César n'était pas un businessman du tout. Moi, je connais César.
Ouais.
Ok. Et César, il était pauvre quand j'ai rencontré. Moi, j'étais riche. Déjà par ma famille, et je faisais ses photos pour lui.
Mmh.
Ok? Il me payait en œuvre d'art, on avait les mêmes avocats, blablabla. Mais là où je le respecte, c'est que lui, il a transformé l'art, l'objet de consommation, en œuvre d'art. C'est-à-dire le déchet. Ce mec-là, c'est le top. C'est comme Andy Warhol.
Mmh. Alors, je vous laissais entendre que. Vos copains, Lol et Pat, je ne vais pas donner les noms, vous les donnez d'ailleurs, donc ça n'a pas d'importance, obtiennent des certificats d'authenticité
de Stéphanie. Facile, ça. C'est très facile. Dès l'instant où l'œuvre est bonne, on a tout ce qu'on veut.
C'est-à-dire
là
que
où là... je veux respecter l'œuvre de César, parce que César, c'était un personnage magnifique. Okay, il a transformé quelque chose de à l'heure du recyclage. Il a recyclé des métaux, du plastique, il en a fait des œuvres d'art.
Je comprends, il y avait une forme de modernité, mais sa dernière compagne, Stéphanie,
oui,
authentifie des œuvres qui sont dans l'esprit du maître,
c'est
qui
son
sont
problème.
Pas réalisées par le maître.
C'est son problème, la petite.
Elle prend une commission? Vous le dites pas, ça?
Non.
Elle fait
elle
ça
prend
pour,
rien.
Pour la beauté
elle,
du geste?
Elle fait ça par l'amour.
Pour vous?
Non, pas pour moi,
pour lui.
Pour César.
Pour César.
Moi, je suis pas amoureux d'elle.
Pour que son œuvre se perpétue.
Bien sûr.
Et elle n'a pas été poursuivie dans
si,
cette affaire.
Enfin, non. Elle était
elle est pas dans votre
en garde à vue, mais elle n'a pas été... J'ai dégagé tout le monde. De... Parce que...
Vous avez tout pris sur vous.
Ben oui, normal.
Pas mal de vos complices, d'ailleurs, s'en sont très bien sortis. Il ne leur
tous.
Est rien arrivé. Sauf un. Sauf un qui a été condamné à
vie. C'est un imbécile.
Une question, vous en dites deux mots. Les Césars de la cérémonie des Césars, ce sont des faux?
Non, c'est... Non. Il faut arrêter là. Non, ce sont des œuvres qui sont faites dans l'esprit de César, avec l'autorisation du comité César. Il faut arrêter de dire les choses pareilles. Hein.
Mais c'est pas César qui les a fait.
Si, à la base.
Oui.
Mais ensuite, on en offre tellement des Césars, peut-être vous n'en aurez rien.
Non, jamais, non. Il faudrait que je fasse du cinéma pour ça.
Non, mais non, bien sûr. Stéphanie a hurlé parce qu'elle a dit « Ouais, c'est des reproductions, machin. » Bien sûr que c'est des reproductions.
Oui.
Mais bon.
D'ailleurs, vous dites que, déjà Fernand Léger, sa femme a poursuivi sa carrière après sa mort.
Bien sûr. Moi, j'étais à l'école avec un élève de Fernand Léger. J'ai appris la peinture, c'était un élève de Fernand Léger. Donc, ce mec, il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris la couleur, la composition. Il était exécutant de Fernand Léger.
Parce qu'en fait, c'est ça que vous avez découvert, la première découverte que vous faites dans le monde de l'art, c'est que tous les grands artistes contemporains donnaient les lignes de leur œuvre et les faisaient exécuter par d'autres.
Ben, comme Raphaël,
C'est-à-dire,
ils avaient 50 personnes qui bossaient pour eux. Et César, à la fin de sa vie, avait quand même un staff de gens qui bossaient pour lui.
Beaucoup de monde?
Oui.
Mmh. Et d'ailleurs, concernant César, vous avez réalisé vous-même une œuvre qu'il avait eu en projet de faire, qu'il n'avait pas faite et que vous avez réalisé vous-même. Vous pouvez raconter ça, c'est la compression de la Ferrari.
Ah, c'est pas moi qui l'ai fait.
C'est pas vous qui l'avez faite?
Non, c'est un de mes amis. C'est magnifique. Magnifique. Un masque avant de Ferrari...
qui avait été accidenté.
F, je sais plus quoi.
Oui.
Collection. Ils l'ont découpé, il a compressé.
On voit le morceau.
Il a signé, mais c'était méga beautiful. Méga beautiful. Il a fait monter sur un truc. Là, pour l'instant, je rends hommage à un de mes potes. Vraiment, il est assuré. Je suis tombé en arrêt devant cette chose. Il m'a dit, je vais la vendre à Michael Schumacher. J'ai dit, Michael, ça ne fera jamais ça. C'est une Ferrari écrasée dans le pain. Moi, je connais Michael Schumacher.
J'ai noté que, bien sûr, vous faites quelques copies de peintres anciens, du 18e et du 19e, mais l'essentiel de votre carrière concerne des artistes contemporains. Est-ce que c'est parce que c'est plus facile?
Non.
Est-ce que c'est plus facile de cloner César que Matisse?
Matisse. Non, non. Moi, je n'aime que l'art contemporain.
C'est pour ça que vous choisissez l'art contemporain.
Les vieux ne m'intéressent pas. Genre Daviès.
Je veux qu'on parle d'une des scènes qui m'a le plus éclaté, qui est cette scène au commissariat, où on vous dit « Mais qui a fait ces tableaux ?» Ben vous dites « C'est moi ». Et à ce moment-là, vous attrapez une feuille de papier et vous faites devant eux un Dufy, un Chagall et un Miro.
Oui.
Est-ce que d'une certaine manière, ça ne dit pas que cet artiste et ces artistes sont surcotés? C'est puisque vous le faites en 5 minutes au stylo bic, dans un commissariat, alors même que vous étiez menotté il y a une minute.
C'est clair.
Oui. Est-ce qu'ils sont surcotés, du coup? Est-ce que la conclusion qu'on tire de ça, c'est que un Dufy, c'est pas grand-chose?
Si, c'est beaucoup. Mais facile à faire.
C'est beaucoup
très
plus facile.
Facile.
Très facile.
Très facile. Ils m'ont dit, prouvez-moi que vous êtes capable de faire ça, parce que vous nous mentez. Mmh. J'ai dit, comment je vais vous mentir, moi? Donne-moi une feuille de papier, un stylo, et je vous fais de mémoire
le
dessin.
Ça a été ajouté à la procédure, c'est dans le dossier quelque part.
Il y a un faux Dufy
dans le dossier.
Bien sûr, tout à fait.
Quelque part, à moins que quelqu'un l'ait subtilisé au passage.
Peut-être, hein, mais bon, c'est pas, je m'en tape.
Alors, il y a une part de votre histoire que j'ai peut-être un peu négligée, mais j'en ai quand même fait état. Vous dites qu'au fond, vous avez fait tout ça juste pour vous marrer.
Oui.
Pour avoir de l'argent,
pour
faire de la
drogue.
Fête, pour payer la drogue.
Ça coûte cher la drogue, ma famille ne pouvait plus assurer. Et Richard Fulton aussi.
Ça n'était qu'une question de cocaïne en fait, tout ça.
Héroïne. Donc ça coûte cher.
Oui. Et il fallait
et
tout
on
ça.
On roulait en Jaguar, en Lotus, en VMAX. Mm. On avait tout. Mais bon, la famille des fois...
ça toussait.
Lève le pied. Mais là, on ne peut pas...
Il n'y avait pas dans l'idée de se constituer une petite fortune?
Non.
Et de s'installer?
Ça ne m'intéresse pas l'argent.
Vous avez tout brûlé, oui. Au fur et à mesure que vous l'avez gagné.
L'argent ne m'intéresse absolument pas. J'en veux, parce qu'on a un besoin pour manger, on a un besoin pour s'habiller, on a un besoin pour s'éclater, pour être libre. Mmh. Mais au-delà de ça, ça ne m'intéresse pas du tout.
En tant que tel. Mmh.
L'argent pour l'argent ne m'intéresse pas.
Alors ce qu'on découvre aussi dans cette histoire, c'est la complicité des galeristes. Et évidemment, il y a une logique là-dedans qui est assez, j'ai envie de dire, presque marxiste, c'est-à-dire que probablement qu'on manque d'œuvres pour animer le marché, il y a une grosse demande, assez peu d'œuvres, et donc leur intérêt est que de nouvelles œuvres apparaissent, quoi, c'est ça?
Exact.
Ils sont complices de ça?
Ben oui.
Il leur faut plus de César
que
César n'en a fait.
Et mon nom est tellement connu qu'ils travaillent toujours avec moi.
Mmh. Même encore aujourd'hui, sur des vraies œuvres.
Aujourd'hui, je ne travaille plus, je suis à la retraite, monsieur.
Ah, d'accord. C'est pour
je
le
suis
fisc.
Un vieux.
Ça, c'est pour le fisc.
Non, mais sans blague.
Les galeristes sont complices du système.
Le marché de l'art, bien sûr, tout le monde est complice.
On manque d'œuvres actuellement sur le marché de l'art à vendre.
Oui, il y a beaucoup de clients et pas beaucoup d'œuvres. Donc.
Ça fait flamber les prix.
Moi, je vends toute la journée, je suis au téléphone. J'ai encore une oreillette.
Bénévolement, bien entendu. Oui.
Bénévolement?
Oui.
Ok, on va dire bénévolement.
Écoutez, j'essaye de vrai pour vous.
Mais on m'appelle pour des Basquiat, on m'appelle pour des Warhol, on m'appelle pour des Cézanne. Et Eric, t'as pas ci, t'as pas ça. Si, j'ai peut-être, là, t'appelles telle personne, machin. Mais bon, le marché de l'art, c'est une chose magnifique parce que c'est mieux que la cocaïne ou que la vente d'armes. Le marché de l'art, c'est meilleur que l'immobilier. Le marché de l'art, c'est mondial. Et personne ne voit la trace de quoi que ce soit.
Les œuvres
gens
traversent les
mers.
Les gens
riches s'enrichissent tout le temps. Okay. Par exemple, là, il y a quelques jours, on m'a proposé un tableau de Modigliani. Le centenaire de Modigliani de sa mort, c'est l'année prochaine, en 2020. Le mec, il achète le tableau 157 millions chez Sotheby's. Il en vend 190. Comment il fait? Par an, il prend 30 millions
de marge
millions.
Mmh.
Oui.
Mmh. Et il va le vendre à ce prix-là?
Bien sûr. Mmh. Et j'ai déjà des acheteurs.
il m'est venu une question un peu idiote qui sera presque la dernière.
Mais c'est magnifique, hein, c'est le quatrième tableau le plus cher du monde.
Je vous souhaite de prendre votre commission.
Moi aussi. Je vous inviterai à venir.
Ça sera ma dernière question, mais est-ce que dans les musées, les grands musées, y compris d'ailleurs les grands musées français, il y a des faux?
C'est pas des faux, c'est des copies.
Ah, what's the difference?
Ah ben, la différence, elle est grande. Une copie d'une œuvre, c'est une copie, ok? Millimètre par millimètre, ok? Mm-hmm. Couleur par couleur. Parce que moi, je vais dans les herbes du Louvre.
Oui.
Et moi, j'ai accès à tout. Et je vois les choses. En restauration, machin, et tout. Vous croyez que la Joconde, c'est la vraie Joconde?
Vous ne le croyez pas?
Vous croyez? Si, quand même.
La Joconde, peut-être?
Bah oui. Mais quand tu vas dans la réserve du Louvre, là, tu vois des choses magnifiques.
Qui ne sont pas exposées?
Qui sont jamais exposées.
C'est trop risqué.
Heureusement que j'avais une maîtresse qui était restauratrice. Mais attends, moi, je passe ma vie à kiffer. Tu sais? Oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai accès à tout. Mais l'argent ne m'intéresse pas.
Eh ben n'empêche que j'espère que vous vendrez des tas d'exemplaires de ce livre.
Bon, que mon éditeur s'enrichisse, c'est déjà bien.
que j'ai dévoré avec passion, même s'il n'a pas toujours été facile d'y tracer une histoire, parce que il est fourmillant, comme vous l'êtes d'ailleurs. Il s'appelle Confession d'un faussaire, signé Éric Piédois Le Tiec aux éditions Max Milo.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.